Bonsoir à tous. Kamel Daoud est un journaliste algérien qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il aime dire ce qu'il pense et penser ce qu'il dit en plusieurs langues. Chroniqueur au quotidien d'Oran, sa dernière tribune, Cologne, lieu de fantasme, est d'abord parue en Italie dans le quotidien La Repubblica, où elle a fait assez peu de bruit, somme toute, avant d'être publiée en France par Le Monde, faisant depuis couler beaucoup d'encre. Auteur de Meursault contre-enquête, Daoud, l'écrivain, voit dans les événements de Cologne des centaines de femmes allemandes agressées la nuit du Nouvel An, un fascinant résumé de nos fantasmes et de nos perceptions de l'autre, entre rejet et angélisme. En Occident, écrit-il, le réfugié ou l'immigré sauvera son corps, mais ne va pas négocier sa culture avec autant de facilité. Et dans sa culture, il y a aussi, selon Daoud, ce rapport malade à la femme, au corps et au désir, et la misère sexuelle du monde arabo-musulman. L'accueillir n'est pas le guérir, prévient-il, cela pose le problème des valeurs à partager, à imposer, à défendre et à faire comprendre, conclut-il. Tribune mal digérée par un collectif d'universitaires qui lui reproche toujours dans Le Monde de recycler les clichés orientalistes les plus éculés, d'alimenter les fantasmes islamophobes d'une partie des Européens et, en jouant du « eux » et du « nous », de faire croire à un choc des cultures, comme l'explique l'historienne franco-tunisienne Jocelyne Dacliat de l'HESS. Malgré les soutiens affichés de nos penseurs, Pascal Bruckner, Michel Onfray, Raphaël Enthoven, Manuel Valls, indigné par les attaques et la hargne inouïe dont Kamel Daoud fait l'objet, je cite, très prompte en ce moment à se poser en arbitre du débat intellectuel français, a à son tour trempé sa plume. Celui pour qui expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser, défend cette fois-ci sur Facebook la liberté d'expression, la fraternité et la laïcité, fustige ceux qui condamnent de manière péremptoire et refuse le débat. C'était mercredi, nous sommes aujourd'hui dimanche, et après, retour ce soir et sans autre forme de procès sur la fabrique intellectuelle, médiatique et politique d'une controverse si française, ses mots, ses acteurs, mais également le malaise ou la vivacité des débats qu'elle traduit avec mes invités. Aude Lancelin, tout d'abord, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice adjointe de la rédaction de l'Obs, auteur de plusieurs éditos sur le sujet, dont la gauche dans le piège de Cologne. À vos côtés, Khaled Bencher. Bonsoir à vous, monsieur.
Bonsoir.
Physicien, philosophe, islamologue, auteur de Le Coran, une synthèse d'introduction et de référence, un livre paru chez Erol en octobre 2015. Enfin, Raphaël Liogier, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Philosophe, sociologue, même si il n'est pas de bon ton ou de bon temps aujourd'hui de l'être. Professeur à Sciences Po Aix et au Collège International de Philosophie à Paris. Auteur en janvier de cette année de La guerre des civilisations n'aura pas lieu, un ouvrage paru aux éditions du CNRS. Kamel Daoud, la polémique s'emballe. Et après, on est ensemble jusqu'à 19h sur France Culture, bien sûr, mais aussi sur franceculture.fr et sur les réseaux sociaux, ça veut dire Facebook, mais aussi Twitter, si vous souhaitez ajouter votre voix à ce débat, hashtag et après.
Dimanche et après. Olivier Jesper.
Dans un sens ou dans l'autre, est-ce que vous vous positionnez sur ce débat, cette controverse? Est-ce que vous prenez parti ou est-ce que vous avez pris parti? Aude Lancelin, oui, clairement.
Pour la défense de Kamel Daoud, oui, il lui faut quelques soutiens de gauche, me semble-t-il, parce que vous le soulignez à l'instant. Pour l'instant, il a plutôt été défendu par tout le bloc réactionnaire. Donc le magazine Causeur est allé jusqu'à faire 30 articles sur le sujet. Jean-Paul Brigelli l'a soutenu, Alain Finkielkraut a soutenu Kamel Daoud, et aujourd'hui donc Manuel Valls. Donc moi, si vous voulez, ce qui m'a profondément intéressée dans ce texte et dans cette polémique, c'est précisément que elle me semble exprimer parfaitement le terrible malentendu qu'il y a sur ces sujets-là entre les deux rives de la Méditerranée. D'un côté, vous avez en France tout un axe laïciste qui avance masqué, qui cache certaines arrière-pensées, au mieux xénophobe, au pire carrément racisante. Et vous avez en face, de l'autre côté de la Méditerranée, à Oran, des intellectuels maghrébins authentiquement laïcs qui se battent contre des islamistes, qui se battent contre des barbus, des gens extrêmement dangereux, qui mettent leur peau dans la balance, qui mènent des luttes authentiquement féministes, qui parfois peuvent échouer comme en 79 à Téhéran, mais qui peuvent aussi réussir comme en 2004 en Tunisie. Et ces gens-là ne parlent pas de la même chose. Et quand Kamel Daoud arrive comme ça dans ce jeu de quilles, il ne peut malheureusement se trouver à gauche que très peu de soutien, parce que la gauche française aujourd'hui pense que le combat principal, et même son seul vrai combat, et la lutte contre le néo-fascisme en train de monter dans l'Europe entière, que ce soit les mouvements extra-parlementaires comme Pegida ou les partis populistes déjà très installés comme le FN. Et pour la gauche française, c'est ça le combat principal. Pour eux, évidemment, de l'autre côté de la Méditerranée, le combat principal, c'est cette oppression religieuse qu'ils subissent dans leur vie et au premier chef, les femmes.
Khaled Bencher. On ne vous a pas entendu encore sur cette polémique, sur cette controverse. Est-ce que vous choisissez ce soir, par exemple, de prendre parti pour un camp ou pour l'autre ?
Nous autres Français avons le chic de sombrer tout de suite dans ce qu'on appelle des affaires. Et par définition, une affaire, c'est celle qui ne se termine pas et donc elle donne lieu à des controverses, des polémiques, etc. Moi, je soutiens Kamel Daoud. Totalement. Donc, les choses sont claires.
L'homme, l'écrivain et sa tribune.
L'homme, l'écrivain, sa tribune intellectuellement est discutable. Mais ce dont il s'agit au juste, c'est d'abord la liberté d'expression et de conscience. Et il a le droit total, absolu, de dire ce qu'il a envie de dire et sans qu'on lui cherche noise. Et cette liberté-là n'a pas à être bordée, assujettie à des restrictions qui invalident le début de la phrase du genre « Oui, on est pour la liberté, mais il n'y a pas de mais, il n'y a pas de néanmoins, il n'y a pas de nonobstant. L'homme a le droit de dire ce qu'il pense et ce qu'il dit. » Deuxièmement, Kamel Daoud est l'homme du 21e siècle. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Il est le fils de 100 ans de son époque. Ce qu'il dénonce à juste raison est une réalité, la fameuse misère dont il parle. En revanche, il l'a déconnecté de sa profondeur historique. Est-ce que de tout temps et à tout moment et en tout contexte, c'était comme ça ? La réponse est non. Donc on aurait pu lui répondre sereinement, calmement. Ce n'est pas lorsqu'un homme dit que le soleil se lève du côté de l'Orient, mais avec quelques nuages, qu'on va lui tomber à bras raccourcis. On lui tombera éventuellement à bras raccourcis intellectuellement s'il nous dit que le soleil se lève du côté de l'Occident.
Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on a le droit de s'exprimer aujourd'hui en France, mais naïvement, j'aurais tendance à penser qu'on a aussi le droit de critiquer des opinions avec lesquelles on n'est pas d'accord. Or, on se rend compte que depuis que cette tribune de Kamel Daoud a été publiée, qu'une contre-tribune, en tout cas une tribune d'un collectif de chercheurs lui répondant, parfois c'est vrai sur un ton assez virulent, a été diffusée, publiée là encore dans Le Monde, la réponse à la réponse est d'une virulence encore plus forte. Écoutez-en quelques extraits.
Kamel Daoud décrit ce qu'il appelle le paradoxe du sexe dans de nombreux pays arabes. Et alors, bon, c'est un texte courageux, bien sûr, mais enfin, ça n'est ni un scoop, ni un stéréotype, comme on l'en accuse. C'est presque une banalité.
La fatwa de nos universitaires s'appuie sur les chefs d'accusations habituels. Culturalisme, impasse sur les déterminismes sociaux, islamophobie, néocolonialisme et même racisme. Les procédés d'intimidation usuels de ceux qui relaient ici les fatwas prononcées là-bas en tentant d'interdire toute discussion libre sur l'islam comme sur l'islamisme.
Il y a des questions à poser. Est-ce que le fait de critiquer l'islam et les musulmans vaut l'accusation d'islamophobie ? Deuxième problème, est-ce qu'on peut encore accepter le discours un peu de réfusard de la gauche et une sorte de sociologie de salon qui nous dit ce qu'il faut dire. Troisième point qu'il pose, c'est quelle est la relation entre l'intellectuel maghrébin, arabe et l'intelligentsia française. Est-ce que nous sommes obligés d'écouter toujours ce qu'ils nous disent ? Est-ce qu'il y a une grille de lecture qu'il faut accepter ? Est-ce que nous n'avons pas maintenant à faire entendre notre propre voix ?
Voilà cet homme traité comme un apostat par des censeurs, le tout bien sûr au nom de la tolérance. Comment se fait-il qu'en France, dès qu'on attaque des fondamentalistes ou qu'on est attaqué par eux, on se fasse non pas défendre mais sermonner par des sociologues ?
Il fallait qu'il continue. De toute façon, il avait une fatwa en Algérie. Maintenant, c'est une sorte de fatwa laïque dont il est l'objet.
la romancière Fawzia Zouari, le philosophe Raphaël Enthoven, le chroniqueur de France Culture Brice Couturier, Raphaël Liogier, vivent sous le coup d'une fatwa en Algérie, convertie à Kamel Daoud, une immunité prophétique de la parole à propos de tous et de tout, pour reprendre les termes de Jocelyne Dacliat, qui revendique, elle, un droit à la critique. Le désaccord à la critique exprimé par voix de presse, est-ce que ça vaut fatwa, comme le défend à l'instant la romancière?
Ah oui, je crois que là, il y a vraiment un problème. On voit bien qu'il y a un usage sauvage du langage aujourd'hui. D'un côté, oui, il y a une réelle fatwa qui peut éventuellement mettre en péril sa vie. Et moi, je suis pour que, effectivement, on combatte au maximum, on le défende de ce point de vue-là. Et je suis pour aussi qu'il ait eu la possibilité d'écrire ce qu'il a écrit dans La Repubblica, que ça a été repris dans Le Monde, etc. Mais qu'on compare l'article qui a été écrit par des intellectuels universitaires qui critique son article à une fatwa, je trouve que c'est ridicule, parce que ça participe de la mise en scène, justement, actuelle, qui consiste à vouloir à tout moment arrêter de la liberté d'expression. Alors si ce sont des fondamentalistes islamistes qui arrêtent la liberté d'expression à un moment donné, ou si ce sont des gens comme Manuel Valls, qui nous interdit d'expliquer sous prétexte que d'excuser, et on a ça quand même tout le temps en écho, bien, je ne veux pas dire que ça revient au même, évidemment, hein, quand même on est en République, toutes choses égales par ailleurs, comme disent les mathématiciens. Mais néanmoins, je trouve qu'aujourd'hui on est dans une ambiance qui est nauséabonde, avec des jeux de mise en scène qui sont vraiment contre-productifs par rapport à ce qu'on veut éviter. D'ailleurs, juste sur le fond, parce que là on a parlé sur la forme, est-ce qu'on a le droit, pas le droit, etc. Bien sûr qu'on a le droit. Mais sur le fond, ce qui s'est passé, moi, le fait que sur le fond, sur la critique de l'article de Daoud, bon, il a le droit de dire ce qu'il veut, et il a en grande partie raison en ce qui concerne le rapport à la sexualité dans les sociétés arabo-musulmanes, dans l'histoire de l'islam, enfin tout ce qu'on veut. Néanmoins, le fait de faire la comparaison immédiate avec ce qui s'est passé à Cologne, alors je sais, du point de vue du sociologue, c'est une pure absurdité. C'est une pure absurdité, parce que des phénomènes comme ça, d'affoulement, des phénomènes liés à la sexualité, on en a eu à toutes les époques. Ils sont pas liés spécifiquement à une religion, à une culture particulière. Ils sont en fait liés à la globalisation. Ils sont liés, par exemple, à ce que dit Alain Badiou quand il montre qu'il y a dans le système capitaliste aujourd'hui, on peut dire des effets de désir. Et donc des rapports de force implicites qui sont liés aussi au désir d'Occident, à toute une série de choses.
Il y a effectivement la question de la forme, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui on a le droit au débat sur ces questions-là en France, et puis la question du fond qu'on va évoquer. Juste, je voudrais vous entendre, Aude Lancelin, sur ce parallèle qui a été quand même beaucoup fait entre la vraie fatwa qui pèse aujourd'hui sur les épaules de Kamel Daoud, qui a été lancée par un imam salafiste en Algérie, et qui le menace de mort pour apostasie et hérésie, et cette fatwa laïque aujourd'hui qui serait lancée contre lui en France. Comment vous réagissez à ces mots? On a aussi entendu Michel Onfray reprendre cet argumentaire-là, Pascal Bruckner qui titrait sa chronique « Défendons les libres penseurs contre les fatwas de l'intelligentsia, comment faire taire une voix originelle ?» Est-ce que c'est parce que la critique est ici collective, que c'est un texte signé par plusieurs universitaires, donc que s'ajoute quelque part la pression du groupe, qu'on peut apparenter ça à une volonté de censurer Kamel Daoud ?
Oui, c'est vrai qu'il y a un côté extrêmement désagréable dans le fait de s'assembler à plusieurs pour cibler un intellectuel. Maintenant, le mot fatwa, évidemment, il est totalement déplacé et ridicule dans cette affaire, aussi détestable que soit cette tribune. Et celui qui a le mieux répondu à cela, c'est Kamel Daoud lui-même. Dans la brève interview qu'il a donnée au journal Le Temps, il dit qu'il n'a pas envie de s'installer dans la posture d'un intellectuel menacé, et que tout le monde, en réalité, est menacé à chaque fois qu'il prend courageusement la parole, et il est trop intelligent pour ne pas savoir d'ailleurs qu'en Occident, cette posture-là relève du paternalisme, et que le bon intellectuel musulman menacé de mort est quelque chose qui apporte des satisfactions aux éditorialistes français en réalité.
Alors pourquoi une telle difficulté, non pas à débattre, mais à débattre ou à critiquer, à parler de l'islam en France? Et c'est à vous que je pose la question, Khaled Bencher. On a tout de suite vu dans cette controverse deux ingrédients types du débat français qui sont ressortis. D'un côté, des accusations de faire le lit ou le jeu des populismes et des extrémismes. Et de l'autre, l'idée d'un politiquement correct, d'un angélisme, de tabou, de démission collective, d'un silence religieux, de choses qu'on ne pourrait pas aborder, et notamment cette question de l'islam.
Alors, cher Olivier Gesbert, la question est, est-ce qu'on peut critiquer ou pas une tradition religieuse? Et la réponse, c'est que non seulement on peut, mais on doit.
Alors, comment bien la critiquer?
Donc, c'est ça que j'allais dire, toute doctrine, toute philosophie, toute idéologie, et a fortiori une pensée religieuse, si elles esquivent le choc des idées, si elles éludent les questions épineuses, finissent par être une doctrine, une philosophie, une idéologie, et a fortiori une pensée religieuse qui s'atrophie, qui se vulnérabilise, et qu'il ne leur reste plus que le fanatisme et la terreur pour subsister quelques instants. Donc, c'est même salutaire. Et ça, il faudrait qu'on le comprenne. Alors, ce qu'on n'arrive pas à comprendre dans notre pays, c'est le débat peut-être à propos d'un vocable, d'un mot qui nous pose problème à nous tous, c'est islamophobie. Étymologiquement, islamophobie, c'est avoir peur de l'islam. Et un islamophobe, à mon avis, on devrait compatir à son état, comme on le ferait pour un hydrophobe, ou un arachnophobe, ou un claustrophobe, ou un agoraphobe. Et donc, à chaque fois que d'aucuns, derrière le mot islamophobie, émettent l'idée que peut-être il y a des difficultés et qu'ils ont peur. Et il y a de quoi aussi avoir peur quand on voit une focalisation sur le vil, le pervers, le négatif et le maladif, et surtout après le 13 novembre, a fortiori. Mais d'autres, derrière l'islamophobie, je ne revendique pas nécessairement le paternalisme, la paternité du néologisme, il y a une mise-islamie, c'est-à-dire une haine affichée comme telle et une hostilité déclarée comme telle. Et donc on racialise, on ethnicise et tout. Et là, d'un côté comme de l'autre, ceux qui ne veulent pas tomber dans ce piège disent « Ah non, c'est de l'islamophobie, je veux pas ». Les autres disent « Ah non, mais vous allez nous museler sous prétexte d'islamophobie alors que nous voudrons critiquer » et on n'en sort pas. Donc il faudrait sortir par le haut. Je finis cette brève réponse en disant, il n'y a pas pire. Et là, je crois que notre ami Kamel Daoud est tombé là-dedans, alors son droit absolu d'écrire toutes les tribunes qu'il faut. Il n'y a pas pire insulte à l'intelligence que de confondre le conjoncturel avec le structurel et de faire un amalgame entre l'intemporel et ce qui est universel, etc. Donc lui, il décrit à juste raison ce qui s'est passé à Cologne en mettant le doigt sur un comportement inacceptable et un non-respect de la dignité humaine dans sa composante féminine. Mais on a cru comprendre en lisant sa tribune que ceci est inhérent à la civilisation islamique, c'est-à-dire un peu ce qui se passait à Tashkent ou à Bukhara ou à Samarkand au XIe siècle où les femmes étaient belles, lascives, ondoyantes et qui dansaient dans les cours princières et avec un rapport charnel sublimé où les autres juives et chrétiennes les percevaient, je parle des femmes musulmanes, comme étant des femmes dissolues. Donc ces questions-là, c'est le fait de n'avoir pas perçu la profondeur historique de la civilisation à un moment donné impériale et qui a été ramenée à quelque chose qui, encore une fois, est tout à fait inacceptable et qui a eu lieu à la veille du Nouvel An.
Beaucoup d'amalgames ou de sentiments, effectivement, à la lecture de cette tribune entre le réfugié, l'immigré, le fondamentaliste, l'extrémiste, l'islamiste, tout ça est un peu brassé, effectivement, dans le texte avec les mêmes mots. Et c'est ce fameux eux et nous, dont on a effectivement du mal à faire la part des choses dans cette analyse. Vous souhaitiez, Aude Lancelin et Raphaël Liogier, réagir?
Oui, moi je crois qu'il y a, répondre aussi à la question que vous avez posée à Khaled Bencher, je dirais que au-delà de la question de la phobie du point de vue clinique, il faudrait plutôt parler de structure paranoïde. Quelle est la différence entre la phobie et la paranoïa? Dans la phobie, par exemple, on parlait d'arachnophobe. L'arachnophobe qui rentre dans une pièce, s'il y a une araignée, eh bien, il a peur, il l'écrase, il essaye de l'éviter ou il sort. S'il n'y a pas d'araignée, eh bien, il n'y pense pas. Un paranoïde, quelqu'un qui est paranoïaque, il rentre dans la même pièce. S'il y a une araignée, il dit « elle n'est pas là par hasard ». Et s'il n'y a pas d'araignée, il dit « elle se cache ». Donc ça veut dire, c'est quoi la structure paranoïde? La structure paranoïde, ça veut dire qu'on postule l'intentionnalité d'autrui. Et vous remarquerez que le rapport à l'islam, c'était pas le cas. Dans les années 80, il y avait une forme de phobie, de rejet, de racisme. Dans les années 2000, on a un nouveau rapport à la question de l'islam qui se traduit par l'intentionnalité. On va avoir hamburger halal dans les quicks. On va dire, ah, c'est parce qu'ils le font exprès. Ils prient dans les rues parce que il y a certaines mosquées qui sont trop pleines. On dit, ah, ils cherchent à occuper le territoire. Etc., etc. Et donc, il y a un renversement. Et là, on voit, ce sont des arabo-musulmans, paraît-il, à Cologne, ils ont violé nos femmes. Ah! Ça veut dire qu'ils le font exprès. Donc, on est dans une logique de l'attaque et de l'intentionnalité. Qu'est-ce que ça suppose, l'intentionnalité? Dès qu'on projette l'intentionnalité, ça a une première caractéristique. Ça veut dire que, c'est un tout global. C'est ça, l'essentialisation. C'est un tout global, il n'y a pas de différenciation. À partir du moment où on est musulman, on serait comme ça par essence. C'est pour, d'ailleurs, l'expression musulman modéré est intéressante. Ça veut dire que si on est trop musulman, eh bien automatiquement, on tombe dans cette intentionnalité. Donc il faut l'être modérément, comme si c'était en soi une drogue. Deuxièmement, ça veut dire que à partir du moment où on postule qu'il y a une intentionnalité maligne dans toute expression, jusqu'au simple, qu'on compare le simple voile, qui n'a rien à voir en réalité, avec un viol collectif... Eh bien, à ce moment-là, on peut justifier des lois qui vont être privatives de liberté. C'est ce qui est en train de se passer dans notre société. Parce qu'en disant, c'est une situation d'urgence. C'est la deuxième caractéristique. Donc, une situation de guerre. Alors qu'en réalité, ce faisant, on rate quoi? On rate des vrais processus qui existent chez des fondamentalistes qui peuvent être extrêmement dangereux. C'est des djihadistes qui sont issus de groupes de nouveaux voyous, etc. qu'on ne cible pas parce qu'on est obsédé par le rapport spécifique à l'islam. Et donc finalement, on finit par même mettre en danger nos populations et faire le marketing de Daesh, parce qu'en fait, l'interprétation qu'ont les gens justement qui sont dans cette espèce de d'idée qu'il y aurait une guerre, que les islamistes seraient forcément... etc. C'est la même interprétation que Daesh, c'est la même interprétation que les fondamentalistes les plus violents qui prétendent être littéralistes.
Oud-Lancelin, je précise juste une chose, c'est qu'au moment où cette tribune de Kamel Daoud a été écrite, on savait encore, même un mois après, finalement, assez peu de choses sur ces événements de Cologne. On savait le gros des faits, mais on ne savait pas qui étaient les agresseurs. Aujourd'hui, on en sait un peu plus. Peu de réfugiés venus de Syrie, d'Afghanistan ou de Libye, des immigrés arrivés généralement de plus longue date, dont une majorité de Marocains, d'Algériens, quelques Tunisiens. Et on avait encore même assez peu les chiffres du nombre de femmes agressées, de quelle était l'ampleur des agressions ou des viols qui ont été subis. Voilà, aujourd'hui, on en sait un peu plus, mais est-ce que c'est pas aussi ce flou des événements qui a rendu très compliqué, quelque part, leur interprétation? Vous, dans votre édito, vous faites aussi, quelque part, une forme de procès à la gauche intellectuelle aujourd'hui. Vous dites qu'elle ne doit pas s'exonérer de penser ces événements. Mais vous leur avez proposé ou pas à des auteurs que vous consultez, appelés régulièrement pour contribuer dans vos pages? Est-ce qu'ils ont refusé d'en parler?
Je pense que nul ne peut nier qu'il y a eu à gauche, au moins dans la gauche critique, sinon la gauche radicale, un malaise par rapport à ces événements. Les faits que nous avons appris depuis n'ont fait que confirmer l'ampleur des agressions, qui en plusieurs centaines tout de même. Hein. Je crois que bon, la dernière fois que
Et les motifs restent à interpréter, ça c'est vrai.
Absolument. Oui. Mais
c'est ça le problème, les motifs.
Pour en venir justement, pour répondre à ce qui vient d'être dit, moi je n'ai pas été gênée par la tribune de Kamel Daoud, profondément pas. Effectivement, il a peut-être le tort de ne pas prendre certaines précautions, de ne pas dire que il n'est pas en train d'exprimer, lui, homme algérien, l'essence même de ce qui serait supposé être un homme musulman à travers les âges et sur toute la surface du globe. Évidemment qu'un musulman au Nigeria, un musulman à Jakarta, un musulman à Tunis n'ont pas grand-chose à voir au niveau des mœurs sexuelles. Néanmoins, il exprime un malaise réel, et Raphaël Liogier, vous en conveniez il y a un moment, un malaise réel, une frustration réelle qui existe par rapport au sexe dans le monde musulman. Alors c'est un état du monde, c'est un état des choses. Il faut pas enfermer cette culture, il faut pas être fixiste, et il faut se souvenir de ce qu'a été le combat féministe en France et en Europe entière. Et moi, ce qui m'a énormément frappé dans la prose djihadiste que citait Kamel Daoud au sujet des femmes et de cette haine de la femme qu'on y voyait, c'est qu'il fait complètement écho à des thèses textes européens, allemands du 19e siècle, ou même des phrases qu'on trouve dans les évangiles apocryphes, je suis venu détruire les
allemands. Schopenhauer,
voilà,
Rousseau.
Schopenhauer, Rousseau, qui passe pour, Rousseau, pour, qui passe pour un parangon du progressisme, ou, des choses encore plus anciennes, je suis venu détruire les œuvres de la femme, on trouve ça dans des évangiles apocryphes, etc. Donc, évidemment, le chemin a été très long pour l'Europe. Il sera long pour certaines parties du monde musulman. Et je pense que c'est ce que souhaitait exprimer Kamel Daoud et rien d'autre.
Alors, une vision de la femme rétrograde, la position de Kamel Daoud n'est pas nouvelle. Entre sa tribune dans le monde et cette intervention en septembre dernier en marge du Festival du Monde, les mots sont finalement assez identiques.
C'est assez frappant. On a l'impression que le corps de la femme appartient à tout le monde sauf à la femme. C'est-à-dire elle est la propriété de son mari, elle est la propriété de son frère aîné, elle est la propriété du plus fort dans le quartier. Son corps appartient aussi à son père, à sa mère, son futur époux, à la société, à la tribu, peut-être au quartier, à la nation même. Mais il n'appartient pas à la femme. Le rapport à la femme est trouble parce que la femme incarne ce qu'on essaie d'oublier, ce qu'on veut cacher. La vie, tout simplement.
Alors, Raphaël Yogier, Raleb Bencher, la solitude affective et sexuelle, les inégalités femmes-hommes, le rapport ambigu au corps de la femme. À l'instant, finalement, Aude Lancelin le rappelait, on a connu ça ici aussi, on le connaît peut-être d'ailleurs encore. Est-ce que c'est le propre des sociétés arabo-musulmanes? Est-ce que le sexisme n'existe pas dans les autres cultures?
Qu'on nous dise que maintenant, le maintenant, ça peut couvrir 4 ou 5 décennies, peut-être même depuis le moment Freud, que les contextes islamiques n'ont pas connu. La situation de la femme est infrahumaine, qu'elle connaît la claustration, qu'elle est considérée comme mineure à vie, qu'il y a cette fameuse misère dans les rapports charnels, etc. C'est une réalité, bien entendu, et personne ne peut le nier. Et si on le nie, c'est qu'on n'est pas probe intellectuellement. Et notre ami Kamel Daoud met le doigt sur une réalité, et encore une fois, non sans raison. Il y a deux difficultés au niveau de son raisonnement. La première, et Aude Lancelin l'a repris en disant, bon, l'Europe a fait un long chemin et probablement, donc la précaution est au niveau du probablement, les sociétés arabo-musulmanes feraient aussi un long chemin. Je ne l'espère pas parce qu'on est dans une ère de mondialisation et aussi de circulation des idées et on ne peut pas nécessairement reproduire le même décalage dans le temps. Mais la seconde difficulté, c'est Kamel Daoud ignore son propre patrimoine sur ces questions-là. Qu'il mette le doigt sur ces difficultés de maintenant, c'est une réalité. Qu'il ignore qu'à Cordoue, par exemple, il y avait des femmes qui tenaient salon littéraire et qui avaient une littérature qui, de nos jours, paraît licencieuse, c'est tout aussi une myopie qu'un intellectuel doit accepter quand on lui fait la correction, j'allais dire, de la vue là-dessus. Rien d'autre. Et c'est pour ça que le débat est intéressant.
Raphaël ?
Oui, moi je trouve que c'est ça ce que je voulais dire quand je disais que c'était contre-productif, ce type de discours. Je pense que l'article de Kamel Daoud, qu'il a parfaitement le droit d'écrire, bien sûr, c'est que il semble nier qu'il y a une multitude d'interprétations dans l'histoire de l'islam, que ces interprétations ont donné lieu à des effets sociaux multiples et variés, y compris par rapport au sexe. Mais en soutenant une sorte d'interprétation unique, finalement, il soutient ceux qui sont les tenants de cette interprétation unique au sein même du monde arabo-musulman, c'est-à-dire les pires des fondamentalistes. Et les pires des fondamentalistes, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de la mise en scène de la guerre de civilisation pour justifier justement leur guerre. C'est ça que je récuse. Et cette mise en scène, elle est d'autant plus puissante qu'aujourd'hui, parce qu'en réalité, on est dans une civilisation globale, on a ce que j'appelle une sorte de grand bain informationnel dans lequel une action, un événement qui se déroule en Algérie ou qui se déroule en Palestine a immédiatement des effets par des logiques d'identification dans la banlieue lyonnaise, à Cologne ou ailleurs. Alors, au lieu d'essayer de gérer ce type de situation extrêmement conflictuelle potentiellement, il ajoute de l'huile sur le feu, mais c'est pas à lui finalement que j'en veux dans cette histoire. J'en veux plus au pouvoir public français, en particulier à Manuel Valls, qui est coutumier du fait, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, à intervenir pour un rien dans la scène publique, comme s'il était un acteur de cette guerre de civilisation. Ah ben non, son rôle justement, son rôle c'est d'apaiser les choses. D'abord, il parle de laïcité, Manuel Valls. Il parle de laïcité. Mais lorsqu'il s'inscrit dans le débat public en disant les uns sont gentils, les autres sont méchants, les autres sont plus, les autres sont moins. On l'a vu à propos de l'Observatoire de la laïcité justement lorsqu'il a remis en cause Jean-Louis Bianco. Bon, il avait l'air de dire à un moment donné, il a quasiment soutenu que être islamophobe, c'était éventuellement possible, il fallait pas avoir honte. Par contre, être antisémite, être antisémite, c'est absolument proscrit. Comment ressentent les musulmans ressentent-ils ça? Eh ben, ils ressentent un deux poids deux mesures. Ça met en scène la guerre de tous contre tous dans un monde, en particulier en Europe, qui est déjà explosif.
Kamel Daoud, la polémique s'emballe et après, on en débat avec mes invités Aude Lancelin, directrice adjointe de la rédaction de l'Obs, avec Ghaleb Bencher, islamologue, et avec vous, Raphaël Liogier, philosophe, auteur de La guerre des civilisations, on n'aura pas lu un ouvrage qui vient de paraître aux éditions du CNRS. La poésie, elle est à l'honneur tout au long de ce week-end sur France Culture à l'occasion du 18e printemps des poètes. France Culture met la poésie en avant tout au long de son week-end. Mahmoud Darwish. Maintenant que mon passé a pris la place de mon lendemain, que je me suis scindée en deux femmes, je ne suis ni orientale ni occidentale. Je ne suis pas un olivier qui a ombragé deux versets. Partons donc. Pas de solution collective aux obsessions personnelles. Il ne suffisait pas d'être ensemble pour être ensemble. Il nous manquait un présent pour voir où nous étions. Partons tels que nous sommes, une femme libre et son vieil ami. Partons ensemble dans deux chemins. Partons ensemble et soyons bons. Il nous manquait à présent Mahmoud Darwish, extrait de Le lit de l'étrangère.
Tu es le commencement de la famille des vagues. Lorsqu'elles s'agrippent à la terre ferme, lorsqu'elles migrent, et je t'aime, et tu es le prélude de mon âme, et l'épilogue. S'envolent les colombes. Se posent les colombes. S'envolent les colombes. Se posent les colombes. S'envolent les colombes. Les colombes.
L'hommage de Rodolphe Burger à Mahmoud Darwish avec un extrait du poème S'envolent les colombes.
France Culture. Dimanche et après. Olivia Jesper.
Sur le fond, Ghaleb Bencher, cette controverse, elle est quand même au cœur de la crise politique, morale que nous vivons aujourd'hui en France et plus largement en Europe, depuis que les guerres au Moyen-Orient ont jeté aussi sur les routes des millions de femmes, d'hommes, d'enfants, agresseurs, victimes, problèmes. Comment traite-t-on les réfugiés aujourd'hui et comment, à vos yeux, faudrait-il les considérer ?
C'est toujours facile de dire il faut qu'il y a qu'à, mais avant tout, il faut les considérer comme des êtres humains. Tout simplement, je vais dire un mot qui est peut-être galvaudé de nos jours, ce n'est qu'avec un humanisme qui remembre tant de sociétés disloquées, et un humanisme qui assume les héritages des peuples, quels qu'ils soient, y compris ceux qui ahannent sous des servitudes renouvelées ou qui subissent malheureusement ces guerres effroyables. Alors, il se trouve que le débat ce soir, c'est à propos de ce qui se passe dans les contextes au pluriel islamique. Aude Lancelin a juste raison quand elle met la distance culturelle entre un musulman de Dakar et un musulman de, ou du Nigeria et un musulman de Jakarta. C'est pour ça qu'il faut parler des contextes au pluriel islamiques où la situation est complexe. Et quand on dit complexe, c'est de deux choses l'une. Soit on a envie de se défausser, et donc on ne scoltine pas l'explication, soit il faut y aller franco à l'explication. Et l'explication, couvre plusieurs strates, une sédimentation. Il y a l'approche sociale ou sociologisante, l'approche politique, l'approche géostratégique. Il y a une lecture nihiliste, apocalyptique. Il y a une refondation de la pensée théologique. Certains versent même dans une approche culturaliste, essentialiste, qui de mon point de vue n'est pas pertinente. Mais les autres, on a envie de voir leur pertinence et d'avoir l'approche globale. Alors, vous me dites qu'est-ce qu'il faut...
Non, mais vous dites que cette approche, par exemple, culturaliste, vous ne la partagez pas. Mais il faut les regarder comme des nous ou comme des autres, cette question de l'autre.
L'altérité, et a fortiori radicale, basée sur ou le genre ou l'appartenance confessionnelle ou à une ère civilisationnelle, là aussi, si on est humaniste parce qu'on a le souci de l'homme, on a l'émergence du sujet humain dans notre monde au XXIe siècle, il n'y a pas à regarder le réfugié comme un autre qu'un être humain. Alors, c'est vrai que l'Europe, et notamment chez nous, en France, si nous sommes fidèles à nos idéaux d'accueil du réfugié parce qu'il est opprimé là où il est, nous devons le faire. Je fais le distinguo entre l'immigrant économique et autres. Ça, c'est une véritable crise et quelque part, je me dis heureusement que je ne suis pas aux affaires pour régler l'affaire. En revanche, comme citoyen, je dis le réfugié, nous devons l'accueillir.
Il est aussi question de notre perception de l'autre et du désir d'être, comme vous le racontez dans votre dernier ouvrage, Raphaël Liogier. Le philosophe slovène Slavoj Žižek, dans vos colonnes ou de Lancelin, voit aussi dans ses migrations un désir d'Occident qui, frustré, peut se transformer en agressivité, faire le lit du fondamentalisme. Il s'appuie beaucoup dans cette tribune sur l'analyse d'Alain Badiou, que vous connaissez bien, philosophe français, à partir de son dernier ouvrage, Notre mal vient de plus loin. Alors, c'est sur cette question de l'altérité et de notre regard, du regard qu'on pose aujourd'hui ou qu'on devrait peut-être poser sur les réfugiés, les migrants qui viennent ici, sans angélisme, Raphaël Liogier.
Sans angélisme, justement parce qu'on est dans une civilisation globale, les disparités, y compris les disparités dans les modes de vie, aussi bien au niveau de vie même que dans la qualité de la vie, sont de plus en plus visibles. Donc ça crée des jeux de frustration, moi ce que j'appelle des effets de vitrine globale qui sont de plus en plus dramatiques. Mais à l'avenir, puisque c'est une émission sur l'avenir, votre émission, à l'avenir, on va avoir une intensification des flux, de toute façon, humains, c'est clair. On va avoir une intensification des flux de marchandises, qui sont déjà encore plus intenses. Et on a déjà, non, même plus une intensification des flux, on est déjà quasiment au maximum dans ce que j'appelle le grand bain informationnel, c'est-à-dire la circulation de l'information. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que jadis, comment est-ce qu'on réglait le problème de l'identité? Lorsqu'il y avait plusieurs civilisations, on réglait le problème de l'identité en considérant l'autre comme barbare, parce qu'il restait de l'autre côté de la frontière. Barbare, ça veut dire, c'est ce qu'entendaient les Grecs quand ils entendaient parler Perses, c'était barbare, ça faisait barbare, il ne parle pas grec, hein, c'était indistinct. Aujourd'hui, l'autre, du fait même de cette globalisation, qu'on le veuille ou non, il est parmi nous. Résultat, on n'arrive plus à construire notre identité de façon solide. Il y a une grande liquidité dans la construction de l'identité et il finit par y avoir une sorte d'angoisse de l'autre qui n'est plus l'autre de l'autre côté de la frontière, qui est l'angoisse du voisin. C'est ça qui devient de plus en plus grave. Il y a des effets de distance. Celui qui est loin, parfois, nous fait moins peur que celui qui est notre voisin, parce que si ça se trouve, ça peut être un terroriste. Si ça se trouve, ça peut être un homosexuel et j'aime pas les homosexuels. Si ça se trouve. Et on a ces effets de distance, cette incapacité à construire des identités cohérentes par la peur de l'autre.
Et il y a pour vous quand même un danger aujourd'hui à s'enfermer dans cette thèse du choc des cultures. Je me réfère là encore à la tribune critique contre celle de Kamel Daoud. Ces auteurs étaient indisposés par ce qu'ils appelaient sa mission civilisatrice, la supériorité des valeurs occidentales qui s'en dégageaient, ou encore son paternalisme colonial. Mais voilà, eux appellent quand même à faire comprendre aux réfugiés que l'asile n'est pas seulement avoir des papiers. Ça, c'est ce qu'écrivait Kamel Daoud, mais accepter le contrat social d'une modernité.
Le gros risque de ça, en réalité, on appelle ça improprement du culturalisme, du relativisme culturel. Le gros risque, c'est ce qu'on appelle en anthropologie, dans la première anthropologie, le différentialisme. Ou ce que moi j'appelle aussi la zoologie de la culture. C'est-à-dire, on voit l'autre comme étant différent et on coupe tout lien humain avec lui à force de l'avoir essentialisé. Donc lorsqu'il est loin, on va considérer que ça peut être quelque chose de merveilleux. C'est pour ça que dans la tribunisée, ça peut être de l'orientalisme. C'est merveilleux, c'est génial, on va le visiter. Par contre, s'il s'hybride à nous, s'il se mélange à nous, s'il est chez nous, il comporte cette espèce de risque de nous prendre notre moi, de nous prendre ce que nous croyons être. Et c'est vrai qu'en Europe en particulier, il y a un retour du différentialisme qui se manifeste sous la forme du racisme culturel et qui focalise sur l'islam. Et qui finalement finit par dissoudre les différences droite-gauche. Parce que vous allez avoir, et ça, par exemple, le concept de laïcité est typique de ça. Marine Le Pen l'a bien compris, puisque maintenant, elle mobilise le concept de laïcité, alors que son père considérait que c'était le complot judéo-maçonnique, à partir du moment où la laïcité, c'est devenu une sorte de patrimoine national qu'elle met presque à égalité avec la virginité de Jeanne d'Arc, si vous voulez. Donc c'est une sorte de défense générale du patrimoine national, du patrimoine des peuples européens, et on en oublie que la laïcité, c'était quoi ? La laïcité, c'était justement le projet universaliste du vivre ensemble, d'une multitude de communautés de vie, de croyants, de non-croyants, ou de ceux qui peuvent croire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans. On parle de laïcité pour interdire.
Raphaël Liogier, dernier chapitre de votre ouvrage. Pour finir, l'urgence d'une gouvernance globale. Voilà à quoi vous appelez, Aude Lancelin, sur cette question de l'autre.
Bah, à vrai dire, on nous a vendu, et c'est tout. C'est pour terminer sur cette affaire de Cologne, c'est tout le drame de cette affaire de Cologne. On nous a vendu comme un conte de Noël, ce qui était en fait la plus grande vague de migration depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, on nous a dit que les Allemands étaient formidables, que nous avions totalement perdu notre boussole et nos valeurs dans cette affaire, et qu'il était formidable d'ouvrir ainsi ses frontières à des centaines de milliers de Syriens. La réalité, évidemment, ne pouvait que leur mordre à la nuque, et c'est exactement ce qui s'est passé. On n'assimile pas des quantités pareilles de population en si peu de temps. On ne laisse pas, si vous voulez, autour de la gare de Cologne, en pleine anomie, un soir de fête, sous diverses substances et sous l'emprise de l'alcool, un millier d'hommes traînés. Et effectivement, je pense que on aurait pris un millier de supporters du PSG ou de White Trash. Le résultat n'aurait pas été tellement
exactement
plus,
ce que je voulais dire.
Pas tellement plus brillant. Donc, je pense que effectivement, le vrai problème, c'est comment faire maintenant pour intégrer raisonnablement ces gens qui seraient effectivement criminels de rejeter, mais sans fermer les yeux non plus sur le fait que ce sera une mission difficile et longue.
Comment arriver à un partage des valeurs, comme le dit Kamel Daoud dans sa tribune. Merci beaucoup Aude Lancelin, merci à Raleigh Bencher et merci à vous Raphaël Liogier. On va se quitter un peu plus vite que d'habitude parce que je vous le disais, ce week-end, la poésie est à l'honneur. Au chant, il y avait tout à l'heure Rodolphe Burger. Il va y avoir, c'est notre surprise, Serge Gainsbourg, à la réalisation Père et le Gras avec Édouard Robinstein, à la préparation et sur le fil des réseaux sociaux, c'était Mathias Mégy. Je vous rappelle que l'émission est disponible sur franceculture.fr.